33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous parlerons du Bénin. Après le tête-à-tête inattendu hier entre le président Patrice Talon et son prédécesseur et opposant Boni Yayi, les deux alliés devenus les pires ennemis ne s'étaient pas revus depuis 2016. La rencontre a été cordiale. L'ancien président a même souligné qu'il n'y avait pas de problème profond avec le chef de l'État. Mais pour mettre fin aux tensions, Boni Yayi a tout de même fixé des préalables. Il a plaidé pour la libération des détenus politiques, la fin des arrestations politiques et le retour des opposants en exil. Reste à savoir évidemment si Patrice Talon, l'actuel président, répondra favorablement à ces requêtes. L'heure est-elle à la décrispation politique? On en parle ce matin et vous êtes nombreux à nous contacter du Bénin. Ça fait plaisir. 33 9 693 693 70 et vos réactions également sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Saïd nous a contacté de Conakry. Bonjour Saïd.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI à travers le monde.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Alors Juan, j'ai appris sur vos antennes que Isaac Kamali a été mis en examen en France pour génocide et crime contre l'humanité lié au génocide des Tutsis au Rwanda. À cet effet, j'ai deux bonnes questions. La première, après son arrestation en 2008, le Rwanda avait demandé son extradition. Pourquoi la France avait-elle refusé? Et comment expliquer cette mise en examen maintenant?
Oui, maintenant, effectivement, Isaac Kamali, soupçonné d'avoir été l'un des planificateurs du génocide rwandais de 1994. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Juan, bonjour Saïd.
Journaliste au service France de RFI, peut-être que l'on peut tout de suite commencer par la deuxième question et expliquer d'abord pourquoi Isaac Kamali a été mis en examen. Il y a quelques jours.
Il y a quelques jours seulement, oui. Même j'ai presque envie de dire, puisque l'enquête à son encontre est ouverte depuis 2009, suite à une plainte déposée par le collectif des partis civils pour le Rwanda, une association qui traque les ex-génocidaires réfugiés en France. En 2009, donc, l'association dépose plainte, mais pendant presque 10 ans, les choses vont aller très lentement, et Isaac Kamali va continuer sa vie de professeur de mathématiques en France. Alors, bien sûr, pendant ces années, il sera suivi de près par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Isaac Kamali sera même arrêté à plusieurs reprises, mais toujours relâché faute de preuves. Et il faudra attendre 2017 pour qu'une commission rogatoire internationale permette enfin aux gendarmes français de recueillir des témoignages au Rwanda et en France pour vérifier le rôle présumé d'Isaac Kamali. Une accélération de l'enquête qui pourrait aussi, dit-on, être liée à la volonté affichée du président fraîchement élu Emmanuel Macron de poursuivre les génocidaires réfugiés en France. Et puis les résultats de cette enquête ouverte il y a quelques années sont parvenus récemment au magistrat qui instruit l'affaire et il a donc eu confirmation que ses soupçons était fondé et a donc décidé de mettre Isaac Kamali en examen. C'était jeudi dernier.
Ouais, et pourtant, du côté rwandais, depuis des années, sa culpabilité ne faisait aucun doute.
Absolument. Il était considéré comme un rouage des massacres des Tutsis. Il a même été condamné à mort en 2003 par le nouveau régime de Kigali, une peine qui sera finalement commuée en réclusion à perpétuité après l'abolition de la peine capitale au Rwanda. Sauf que Isaac Kamali ne sera pas extradé vers le Rwanda et cela rejoint votre première question, Saïd. Alors pourquoi il ne sera pas extradé? Deux explications. Isaac Kamali est naturalisé français en 2002, soit un an avant sa condamnation à mort au Rwanda. Et la doctrine de la France est de ne jamais extrader ses ressortissants, particulièrement s'ils risquent la mort. Et puis en 2008, après l'abolition de la peine capitale au Rwanda, la France estime que la justice rwandaise est partiale, raison supplémentaire de ne pas renvoyer un ressortissant là-bas.
Oui, Saïd, vous avez une autre question à poser à Pierre-Olivier.
Ah oui, la deuxième question. En sait-on plus sur les accusations et son rôle dans ce génocide?
Quel rôle a donc joué Isaac Kamali?
Alors, d'après toujours l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, Isaac Kamali aurait joué un rôle de premier plan lors des massacres des Tutsis en tant qu'agent du ministère des Travaux publics et de l'énergie, le Minitrap. Alors, en 1994, en plein génocide, Isaac Kamali est soupçonné d'avoir d'abord lui-même participé à des tueries puisqu'il a été repéré, armé à plusieurs reprises. Et puis, il est également accusé d'avoir apporté une aide logistique, notamment en fournissant des moyens de son ministère, comme des véhicules, aux milices extrémistes. Il est donc soupçonné d'avoir mis à disposition des génocidaires des moyens étatiques. Mais malgré ces preuves récoltées par les gendarmes et les témoignages recueillis, eh bien, Isaac Kamali, entendu par un juge d'instruction, a nié les faits. La route pourrait donc encore être très longue jusqu'à un procès aux assises.
Oui, et Isaac Kamali, âgé de 72 ans, a des problèmes de santé, dossier à suivre. Saïd, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci, et merci également à Pierre-Olivier.
Pierre-Olivier, journaliste du Service France de RFI.
Merci.
Bonne journée à tous les deux, 10h16 ici à Paris. Je suis ravi d'accueillir Stéphanie Schuller du Service International. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juan.
Je suis déçu, non pas de vous avoir, mais déçu de ne pas parvenir à rappeler Abou qui nous a contacté de Chicago. Il doit être 4h du matin, 4h16 à Chicago. Que fait-il ? Dort-il ? Est-il injoignable ? En tout cas, je vais me faire son porte-parole. Question d'Abou, très pertinente. Il souhaite revenir sur l'assassinat en juillet dernier du président haïtien Jovenel Moïse. Et il nous dit que la semaine dernière, le chef du parquet de Port-au-Prince a été démis de ses fonctions après avoir accusé le Premier ministre d'avoir eu des communications téléphoniques avec un suspect du meurtre du président haïtien. Et Abou veut savoir si ce bras de fer entre le Premier ministre et le ministre de la Justice ne risque pas d'entraver l'enquête qui semble, dit-il, toujours au point mort. Elle n'est peut-être pas au point mort, en tout cas, elle piétine, ça c'est sûr, Stéphanie Schuller. Semaine dernière, particulièrement tendue, sur le plan politique, avec donc limogeage du procureur, limogeage ensuite du ministre de la Justice. Expliquez-nous pourquoi le Premier ministre s'est séparé de ces deux hommes.
Eh bien, tout a commencé quand le procureur a demandé au juge d'instruction, Juan, qui enquête sur le meurtre du président Moïse, d'inculper le Premier ministre et de lui interdire de quitter le territoire haïtien. La raison, Ariel Henry, donc le Premier ministre, aurait eu, comme vous l'avez dit, des échanges téléphoniques avec l'un des principaux suspects dans les heures qui ont suivi l'assassinat. Mais, selon la loi haïtienne, le procureur n'a aucun droit de formuler de telles demandes dès lors que le dossier est entre les mains du juge d'instruction et donc du pouvoir judiciaire. Et d'ailleurs, des juristes haïtiens ont tout de suite critiqué la démarche du procureur comme étant une entrave à l'indépendance de la justice. Alors, logiquement, le Premier ministre a limogé le procureur pour, je cite, « faute administrative grave ».
Ouais, et le lendemain, le Premier ministre a également renvoyé le ministre de la Justice.
Absolument. Les observateurs y voient avant tout la preuve des luttes internes qui font rage pour la gestion du pouvoir. Alors, il faut rappeler que la situation politique actuelle d'Haïti ne repose sur plus aucun cadre constitutionnel. Avec un président assassiné en juillet dernier et un parlement dysfonctionnel depuis janvier 2020, parce que les élections législatives n'avaient pas été organisées à temps. Plusieurs camps politiques ont donc fait ces dernières semaines des propositions pour une sortie de crise et tentent depuis d'y faire atterrir le plus grand nombre d'acteurs pour parvenir à un accord.
Oui, on comprend donc, Stéphanie Schuller, qu'il s'agit bien d'une lutte pour le pouvoir. Est-ce que cette lutte, et on répond là à la question de notre auditeur de Chicago, est-ce que cette lutte risque tout de même d'entraver l'enquête sur l'assassinat du président ?
Eh bien, théoriquement, non, puisque le pouvoir judiciaire haïtien est censé être indépendant. Comme je le disais, le dossier de l'assassinat du président Moïse se trouve entre les mains d'un juge d'instruction. C'est lui, et lui seul, qui mène l'enquête et qui peut convoquer les personnalités qu'il juge importantes pour faire avancer ses investigations. Mais il est indéniable que l'instruction de l'assassinat de Jovenel Moïse ne sera pas aisée. Des pressions et des menaces, ainsi que des moyens insuffisants, ont déjà poussé un premier juge d'instruction ces dernières semaines à jeter l'éponge après 4 jours seulement. Et puis, il faut aussi rappeler que ces dernières décennies, aucun procès d'envergure ne s'est tenu en Haïti, ni sur les massacres, on se souvient, dans les quartiers populaires, ni sur les assassinats de journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme, ni sur le meurtre du bâtonnier de Port-au-Prince en août 2020. C'est donc une justice complètement dysfonctionnelle en Haïti, et cela a visiblement créé un sentiment d'impunité tel qu'une ou plusieurs personnes se sont dit qu'elles pouvaient assassiner le président de la République sans jamais être inquiétées. Une chose est certaine, Juan, et je termine là-dessus, la confusion suscitée par le limogeage du procureur et du ministre de la Justice renforce chez les Haïtiens le sentiment de mystère qui entoure ce crime. Qui a commandité le meurtre du président et pourquoi ? Pour l'instant, aucun élément ne permet d'y apporter, ne serait-ce qu'un début de réponse.
Oui, il y a eu, rappelons-le, une quarantaine d'arrestations, mais c'est vrai que le mystère perdure. Quant aux éventuels commanditaires, j'espère que Abou à Chicago pourra entendre vos explications. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans le studio, Stéphanie Schuller.
Plaisir partagé.
On va repasser au standard, au 339-693-693-70. On va parler football maintenant. Et oui, c'est officiel, depuis mardi, Samuel Eto'o brigue la présidence de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. José Louis, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, et à tous vos nombreux collaborateurs de l'émission.
Et merci de vos encouragements. Vous nous appelez de Port-Gentil au Gabon, nous vous écoutons.
Bien ça, oui. Juan, il y a 48 heures, Samuel Eto'o fils a fait savoir qu'il est candidat pour briguer la présidence de la FECAFOOT. À ce sujet, j'ai des petites questions.
Oui.
Par le passé, plusieurs anciennes gloires du football camerounais ont échoué. À ce sujet, j'aimerais savoir quelles sont les chances de l'ancien numéro 9 de Lyon, indomptable, de l'emporter.
Ah, alors je ne sais pas si Christophe Jousset du service des sports de RFI à la boule de cristal. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan. Bonjour.
Bienvenue, merci de nous rejoindre Christophe. Les chances de succès de Samuel Eto'o.
Bon, alors c'est vrai que les anciens s'y sont essayés et qu'ils ont échoué. Le plus connu, c'est Joseph-Antoine Bell qui a tenté sa chance à plusieurs reprises, l'ancien gardien des Lions. Mais l'idée de voir les anciens joueurs finalement accéder aux responsabilités, accéder à la direction du foot de leur pays, c'est répandu, c'est développé, c'est affirmé ces dernières années. On voit que Didier Drogba est en
Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, en piste pour la présidence de la FIF. C'est encore à jouer devant nous. Au Cameroun, donc effectivement, autour de Samuel Eto'o de se lancer. Alors, on ne le présente pas, hein, Samuel Eto'o. Il est le grand attaquant qui a laissé sa trace dans le grand livre du foot mondial à Barcelone, à l'Inter de Milan. Avec l'équipe nationale aussi, un grand attaquant qui est aujourd'hui retraité des terrains, mais qu'on voit un peu partout régulièrement. Il voyage beaucoup. On l'a vu récemment au Cap-Vert reçu par le chef de l'État à Madagascar pour l'inauguration du nouveau stade Atana. Et il a une dimension internationale, un réseau qui est incontestable.
Un très bon carnet d'adresses.
Ça, c'est sûr. C'est un atout essentiel pour lui. Est-ce que c'est suffisant? Non, évidemment, parce que ce n'est pas à l'étranger qu'on se fait élire président de la FECAFOOT. Pour gagner cette élection, il faut d'abord que sa candidature soit validée par la commission d'éthique. Ensuite, il faudra se présenter devant les électeurs. Au Cameroun, ça marche avec des délégués au niveau départemental, au niveau régional. Il est lui-même délégué du département de la Sanaga-Maritime, donc il a déjà commencé à travailler sur son assise électorale en vue de ce scrutin qui aura lieu le 11 décembre. Mais il y aura de la concurrence. Il y aura de la concurrence. Alors, par exemple, deux anciens Lyons se sont déclarés, Jules-Denis Onana et Mabou Ankessak. Il y aura très probablement aussi...
Le président sortant.
Voilà, l'actuel président, qui est Seydou Mambo Djoya, qui est aussi vice-président de la Confédération africaine de football. C'est un sérieux candidat à sa propre succession.
Donc il y a de la concurrence. José Louis, une autre question, je crois.
Oui, Juan. J'ai une dernière question. C'est celle de savoir, que propose-t-il concrètement pour réformer la FECAFOOT?
Ah, Christophe Jousset, le slogan de Samuel Eto'o, redonner au football camerounais sa grandeur. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, quel est le programme?
Il est large, le programme, évidemment, surtout s'agissant d'une fédération qui est en crise permanente depuis plusieurs années. Samuel Eto'o fait le constat, il est très partagé ce constat, des histoires de pouvoir, des histoires d'argent. Le championnat du Cameroun qu'on n'arrive pas à organiser dans la continuité. Régulièrement, les clubs sont moins performants que par le passé sur la scène continentale et l'équipe nationale elle-même s'interroge depuis le titre de champion d'Afrique en 2017. Alors Eto'o, effectivement, il a ce slogan, l'esprit de conquête, le Cameroun qui gagne. Pour l'instant, il a posé son plan sur une plaquette. D'ailleurs, on peut noter que sur la couverture de cette plaquette, il est en photo entouré par plusieurs personnes, dont Roger Milla et Rigobert Song. Voilà, pour l'instant, on les a pas entendus s'exprimer, mais ça serait intéressant de les entendre.
Parce que s'ils sont sur la plaquette, c'est qu'ils soutiennent Samuel Eto'o.
On peut le supposer. Oui. Maintenant, les relations entre Eto'o et Milla et entre Eto'o et Song n'ont pas toujours été au beau fixe.
Effectivement.
Donc, est-ce qu'à l'approche de l'élection, il va se passer quelque chose? Eto'o, donc, a posé son plan. Alors, il déroule. Il a été formé en management. Ça se voit. Améliorer la gouvernance, développer développer le football, mobiliser des acteurs, améliorer l'attractivité des compétitions au Cameroun. Il s'agira surtout de fédérer autour de lui, pour lui qui a un ego incontesté également. Il a eu tout au long de sa carrière une liberté de parole. Est-ce qu'il va pouvoir conserver cette liberté de parole ou se polisser, être obligé de se polisser un peu? C'est aussi un des défis qui s'offre à Samuel Eto'o.
Et il s'engage à ne pas empocher un centime des indemnités mensuelles prévues par la fonction de président de la FECAFOOT. Ces indemnités, dit-il, s'il est élu, seront allouées au développement du football amateur.
Oui, il renonce au salaire du président de la FECAFOOT et bon, il a les moyens de le faire.
Effectivement. José Louis, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, Juan, merci, je suis très content.
Ah, vous êtes très content.
Je lui souhaite bonne chance. Ah. Et puis, je dis bonjour à tous mes nombreux amis de Port-Gentil qui sont à l'écoute de l'émission ce matin.
Eh bien, nous, on salue tous les auditeurs de Port-Gentil au Gabon. Merci infiniment de votre fidélité, Christophe Jousset. À bientôt.
À bientôt.
Je l'espère. Et puis, si vous souhaitez réagir à la candidature de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, appelez-nous. On en parle demain matin dans la Libre Antenne. Le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Maki est avec nous au standard. Bonjour, Maki.
Bonjour RFI, la radio qui nous parle et qui parle de nous.
Et qui vous donne la parole tous les matins. Maki, vous êtes à Conakry, vous avez des questions concernant votre pays, la Guinée.
Oui, oui. Depuis le putsch en Guinée, on constate une hausse du cours de l'aluminium. La Guinée détient plus d'un quart des réserves mondiales connues de bauxite. Ma première question est la suivante. La production de bauxite ne semble pas avoir été affectée par l'instabilité politique. Mais peut-on s'attendre à des conséquences sur la distribution et l'exploitation de la bauxite ?
Oui, c'est vrai que le coup d'État en Guinée a provoqué un coup de chaud sur les marchés de l'aluminium. La tonne est passée de 2400 à 3000 dollars. Le pays, vous le disiez, Maki, mais le réseau n'était pas très bon. Le pays abrite un quart des réserves mondiales de bauxite, principal composant de l'aluminium. Pour vous répondre, on a contacté ce matin Akoumba Diallo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous êtes spécialiste des mines en Guinée. Vous êtes un confrère, un journaliste à FIM FM. Et vous avez publié aux éditions Aide Livre, dans l'arène de Simandou, de la diversion politique à la comédie des suspects de la République. Simandou, je le précise pour tous ceux qui ne sont pas guinéens, c'est là où se trouve une très importante réserve de fer dans le sud-est du pays. Quelles conséquences ce coup d'État peut-il avoir sur justement l'exploitation des mines et notamment de bauxite?
Il me semble être un peu prématuré de prévoir les conséquences de manière exhaustive, d'autant plus que c'est à la fin de l'année qu'on verra quelles ont été les réalisations des business plans, donc des plans d'action prévisionnels. Mais il est aussi établi que l'envolée du prix de la tonne d'aluminium a eu, si vous voulez, quelques conséquences où cela a été un peu motivé par la situation guinéenne. Mais il faut noter d'abord pour l'auditeur qu'il y a deux types de producteurs de bauxite en Guinée. Il y a les producteurs intégrés, c'est-à-dire ceux qui produisent de la bauxite et qui disposent de toute une chaîne de transformation jusqu'au produit fini qui est l'aluminium. Mais il y a aussi les producteurs indépendants. Entre ces deux, là, chacun peut parfois vendre sa production. Maintenant, est-ce que le coup d'État aura ou a eu des conséquences sur l'exploitation de la bauxite? On peut dire ceci. Pour le moment, non. La junte s'est engagée à sécuriser les zones d'exploitation minière. Cela va favoriser le transport, la production, le transport et l'évacuation vers les marchés. Ensuite, la junte s'est engagée à respecter les obligations contractuelles passé avec le gouvernement précédent. Donc, cela rassure un peu les producteurs. Maintenant, ceux qui sont en phase de production peuvent toujours continuer leur production et respecter probablement leur business plan. On aura peut-être plus de loisirs à évaluer vers la fin de l'année, mais ceux qui sont en développement pourraient probablement subir parce que c'est des entreprises qui ont besoin de lever des fonds, notamment dans les marchés boursiers et au niveau des institutions financières. Et on le sait bien que les institutions financières sont un peu regardantes en ce qui concerne les risques, notamment le risque politique, puisqu'il y a eu un coup d'État.
Ah, il y a eu un coup d'État et on sait bien que quand il y a coup d'État, eh bien ça n'encourage pas les investissements. En tout cas, on voit bien que la junte fait tout pour que les mines fonctionnent. C'est un secteur très important pour l'économie guinéenne, 80% des exportations guinéennes. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Akoumba Diallo. Je remercie Maki de nous avoir appelé de Conakry. Reste à l'écoute de RFI, tout de suite, le journal.